Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ça s'appelle le DMA ou le DMA, Digital Markets Act, et ça nous concerne tous.
Politicians celebrating the new Digital Markets Act.
C'est une loi européenne qui va changer nos façons d'utiliser Internet et certains de nos téléphones portables.
DMA. Ces trois lettres, j'en suis sûr, impactent déjà vos vies. Elle signifie Digital Markets Act, le nom d'un règlement européen historique entré pleinement en vigueur le 7 mars. Cousin d'un autre texte sur les services numériques, le DSA. Le DMA concerne les très grandes entreprises, appelées contrôleurs d'accès. Son but, augmenter la transparence et la concurrence sur les marchés numériques en attaquant directement la domination des big tech. Apple, Microsoft, Google, Amazon, TikTok ou encore Meta sont concernés. Plusieurs de leurs services ont donc eu le droit à des nouveautés, souvent à contre-cœur. On parle ici de changements qui vont impacter votre façon d'utiliser vos smartphones et Internet. Par exemple, si vous tapez une adresse dans Google, une image de carte apparaît. Avant le DMA, vous pouviez cliquer dessus et ça vous emmenait directement sur Google Maps à l'adresse que vous aviez écrite. Maintenant, ce n'est plus qu'une simple image statique. Impossible de cliquer dessus. Ou bien si vous avez un iPhone, vous avez dû choisir récemment votre navigateur par défaut. Ce ne sont là que quelques exemples, mais tout ça, c'est grâce ou à cause, au choix, du DMA. À Siècle Digital, on s'est demandé quelle est la suite pour ce texte. La Commission européenne est-elle prête à faire face aux conflits qui s'annoncent avec les géants du numérique? Comment ces derniers intègrent-ils les mesures du DMA? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, je me suis adressé à Joël Toledano, professeur émérite d'économie et membre du Conseil national du numérique. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Joël Toledano.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à cette émission, à cet épisode sur le Digital Markets Act. Alors le DMA, vous vous en doutez, je pense, on en parle souvent à Siècle Digital et dans cette émission Culture Numérique. Mais maintenant que ce règlement européen historique est pleinement entré en vigueur, je pense qu'une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal à tout le monde. Alors justement, en parlant de piqûre de rappel, pour commencer, comment vous expliqueriez ce qu'est le DMA à quelqu'un qui n'en a aucune idée, qui ne connaît absolument pas ce texte?
Alors, je dirais que le DMA, il a été créé pour répondre au problème que posait le pouvoir de marché d'un certain nombre d'acteurs et que les autorités de concurrence n'arrivaient pas à traiter pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, qui sont à la fois les changements de paradigme économique, des délais extraordinairement longs, etc., etc. Donc, il y avait un certain nombre de problèmes évidents que les autorités de concurrence, et pas seulement elles d'ailleurs, avaient identifiés. Mais pour autant, ça restait encalaminé ou c'était contesté et les résultats n'étaient pas clairs. Et donc, ça a été inventé au fond pour imposer des règles ex ante, comme on dit en jargon, c'est-à-dire obliger ces acteurs qui ont un pouvoir de marché considéré comme excessif à respecter un certain nombre de règles. Et pourquoi? Quels sont les objectifs, au fond? Deux, principalement, et qui se déclinent. Le premier, c'est mettre un peu plus de concurrence dans des activités, des secteurs qui sont quasi monopolistiques. Et deuxièmement, comme ces activités sont quasi monopolistiques, ces acteurs en profitent, au fond, pour accaparer une grande partie de la valeur créée dans l'ensemble des chaînes de valeur avec d'autres acteurs, d'autres entreprises qui participent à la création des biens. Et donc, ça, c'est les deux objectifs. Et tout ça, évidemment, c'est un peu des généralités qui se déclinent selon les acteurs, selon les marchés, selon les dynamiques. Mais je pense qu'on va y revenir.
Exactement, on va y revenir. Justement, j'allais parler de... Parce que là, on rentre plus dans les mesures aussi, dans le fond du texte. Avant de continuer, justement, je voulais vous demander s'il y a peut-être une mesure ou un aspect, une disposition de ce texte que vous retenez ou vous tenez à mettre en avant plus que les autres.
En fait, non. En fait, je crois qu'il faut éviter parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont des pratiques et auxquelles ce texte cherche à répondre et que parfois on a tendance un peu à se focaliser, à avoir des boucs émissaires. Je pense qu'on aura l'occasion de parler d'Apple avec raison. Il faudrait surtout pas qu'en parlant d'Apple, on parle pas d'Amazon, on parle pas de Google, on parle pas de Microsoft, etc. Donc oui, il y a des choses qui frappent, mais en réalité, avant de vous parler à l'instant, je recalculais, on en est là à 10 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est-à-dire qu'on sait plus ce que ça veut dire, 10 000 milliards de dollars, et avec des acteurs extraordinairement puissants qui savent exercer leur pouvoir de marché et qu'ils font très bien, et c'est leur objectif, et on peut pas leur reprocher en tant que tel, si ce n'est qu'il faut les en empêcher en droit, et que c'est ça l'objectif. Donc, il n'y a pas une mesure, il y a beaucoup de mesures, et le problème, ça va être justement de vérifier que les acteurs les respectent, et ça, malheureusement, je crains que ce soit pas toujours facile, toujours rapide, et ça prendra du temps.
Ça prendra du temps, il va y avoir peut-être quelques années de rodage, notamment au niveau de la commission aussi. J'ai dit avant que le DMA est pleinement entré en vigueur maintenant, c'était le 7 mars précisément, c'est-à-dire qu'entre le mois de mai 2023 et le mois de mars 2024, les grandes entreprises concernées, comme vous l'avez dit, Apple, Google, Microsoft, Amazon, etc., avaient un délai pour s'adapter et se mettre en conformité leurs services concernés. Je voulais qu'on ait quelques mots sur les impacts du Digital Markets Act. Quels seront ces impacts, les plus gros impacts de ce texte pour vous ?
Écoutez, si j'étais capable de le dire, je crois que je serais très très forte parce que il y a énormément d'incertitudes sur beaucoup de choses.
Encore aujourd'hui, il y a de l'incertitude ?
Ah bah oui, et il y en aura parce que tout ça va conduire à des débats, à des contentieux, à des décisions de la Cour de justice et que avec beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, de choses à vérifier et à mettre des moyens pour qu'on puisse les vérifier. Et donc, si je vous dis quel espoir on peut avoir, ça, je suis capable de vous le décrire. Si vous me dites qu'est-ce qui se passera vraiment, ça, je pense que personne aujourd'hui n'est capable de vous le dire.
En termes d'impact, notamment, il y a un aspect que je trouvais intéressant, c'était, si je devais faire un parallèle, je prendrais le RGPD, pour le coup, le règlement européen sur les données. Le RGPD a influencé d'autres pays, d'autres territoires. Est-ce que le DMA va influencer aussi, en termes de régulation des géants du numérique et de la concurrence dans le numérique, d'autres territoires qui vont se dire « Ah, c'est quand même pas mal comme texte, on va s'en inspirer pour aussi avoir notre DMA ».
Ce qui est sûr, indépendamment de ce qui va être fait en matière de législation, c'est que les résultats du DMA vont avoir des impacts qui vont aller au-delà de la seule Europe. Je ne sais pas si ça viendra du fait que le même type de texte sera mis en place ou pas, mais fondamentalement, s'il y a des résultats en Europe, il sera très difficile aux acteurs dont on vient de parler, et TikTok compris, puisque c'est le seul qui n'a pas été nommé dans la liste.
Oui, c'est vrai.
Il sera très difficile de dire aux Américains, de dire aux Canadiens, de dire Amérique du Sud, ah, en Europe, on fait comme ça et ça a eu telle conséquence, on a ouvert par exemple l'App Store, vous n'y avez pas droit. Donc je pense que l'une des grandes conséquences du fait que on peut pas s'attendre à ce que les mesures qui seront effectivement appliquées en Europe s'arrêtent aux frontières de l'Europe, mais l'une des grandes conséquences, c'est que du coup, les opérateurs vont être d'autant plus vigilants à ce que les conséquences soient limitées. Parce que une chose, c'est de s'attaquer, entre guillemets, à peu près, disons, 20-25% du chiffre d'affaires de ces opérateurs dont nous venons de parler. Et une chose, c'est de s'attaquer à 100%. En réalité, si vous prenez, je vous ai dit que c'était pas le seul, mais on pourrait y revenir, l'App Store d'Apple, l'Europe n'est pas le seul endroit où l'App Store est remise en question. Et évidemment, en fonction de la façon dont ça va se passer en Europe, il y aura des conséquences dans le reste du monde. On voit mal d'autres pays se satisfaire de réponses dilatoires comme celles que Apple a été déjà amené à faire en Corée ou ailleurs à partir du moment où autre chose est mise en place en Europe. Donc, je pense que la résistance des acteurs est à la mesure de leur incapacité à cantonner certaines des mesures qui seront mises en place. Il y a certains sujets sur lesquels ils seront capables de continuer à cantonner, mais pas tous. Et donc, Quoi qu'il en soit, nous aurons des conséquences ailleurs de l'application du DMA, mais c'est aussi la raison pour laquelle probablement nous aurons d'autant plus de mal, nous Européens, à obtenir les résultats de réelle concurrence que nous attendons de la mise en place du DMA.
Vous pensez que la Commission, pour le moment, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais que la Commission européenne a suffisamment bien préparé l'arrivée de ce texte et les contrôles et s'est suffisamment dotée de moyens pour faire respecter le DMA?
Écoutez, c'est une notoriété publique, mais je l'avais effectivement écrit avant que non, malheureusement. À la fois parce que ils ne sont mis à mettre en place les équipes que très lentement et en tout état de cause, dès les textes, il y avait une sous-estimation manifeste du nombre de personnes nécessaires à le mettre en œuvre. La réponse à votre question est malheureusement, la Commission n'a pas aujourd'hui, elle a, semble-t-il, aussi un peu de mal à recruter, mais elle recrute et elle avance. Donc, vers à moitié plein, vers à moitié vide, voilà. Si vous voulez, mon expérience de la régulation dans d'autres secteurs et ailleurs montre en tout état de cause que les choses ne se font jamais du premier coup. Quand on a voulu ouvrir les télécoms à la concurrence, il a fallu un certain temps avant que cette concurrence puisse se mettre en place de façon pérenne. Donc, en tout état de cause et dans le meilleur des cas, ça ne se fait pas du premier coup.
On a donc le choix, verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Je laisserai nos auditeurs et nos auditrices choisir. Dernière question sur cette partie des impacts du DMA. Peut-on s'attendre aussi à une hausse des prix? Je m'explique. Je pense notamment, c'est l'exemple le plus parlant, mais on parlera d'autres exemples évidemment. Je pense notamment à Apple et à son magasin d'applications, l'App Store. La marque à la pomme prélève une commission sur chaque transaction effectuée à travers son App Store. Donc par exemple, on s'abonne à une plateforme de streaming via l'application qu'on a téléchargée via l'App Store. Apple prélève une commission, ça fait beaucoup débat, mais c'est un autre sujet. Et vous l'avez déjà un petit peu dit, le DMA oblige Apple à ouvrir son App Store et son écosystème. Et donc, il n'y aura plus forcément cette commission. Apple ne pourra plus toujours prélever cette commission. Donc ma question, c'est est-ce que ces entreprises concernées par le DMA comme Apple, qui vont voir certains peut-être revenus s'envoler, vont augmenter leur prix, par exemple de produits ou d'autres services, pour compenser?
Alors, dites-vous bien que ce soit Apple ou d'autres, et Google a commencé à le faire, non pas sur le prix, mais sur la qualité, on va entendre dans les semaines qui viennent que l'application du DMA conduit soit à une baisse de la qualité sous la forme d'utilisateurs qui seront amenés à pas trouver tout de suite ce qu'ils veulent, à passer moins facilement d'une application à l'autre, etc. Ou bien un discours sur l'augmentation des prix. Je pense qu'il faut s'y attendre et qu'il faudra l'investiguer très très sérieusement. Mais en tout état de cause, si vraiment une chose pareille conduisait à l'augmentation des prix, ça voudrait vraiment dire qu'il conserve un pouvoir de marché absolument colossal. C'est-à-dire que si même quand on a introduit des mesures destinées à améliorer la concurrence et donc, en principe, à avoir un effet sur les prix, ça conduit à une augmentation des prix, ce résultat serait pour le moins paradoxal. Mais je pense, pour rester alors sur le cas d'Apple, que le sujet de l'App Store et des services en général va être une très longue histoire. La raison en est simple, c'est le segment sur lequel le chiffre d'affaires d'Apple croît et c'est le segment sur lequel la marge est la plus élevée.
Tout à fait.
Pour ces deux raisons, sachant qu'il y a une autre partie du chiffre d'affaires de service d'Apple qui est en ce moment en vrai débat, puisqu'aux États-Unis, vous avez ce procès qui met en question les revenus substantiels qu'Apple reçoit de Google pour être le search par défaut. Il est clair que, en gros, Apple a un peu moins de 25% de son chiffre d'affaires qui est en service. Son chiffre d'affaires sur cette partie-là a doublé en 5 ans. Et son niveau de marge, en marge brute, il dit lui-même qu'il est à 70%. Donc vous voyez que tout ce qui va concerner cette partie, et pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire en plus ce ne sera pas seulement l'Europe, il faut s'attendre à une bagarre et à des réticences extrêmement importantes. Et ça prendra toutes les formes, et ça prendra du temps, et ça ira à la Cour de justice. Voilà, donc je crois qu'il serait temps sur chacune de ces bagarres de mettre en rapport les chiffres d'affaires et les profits qui sont en cause. Et tout de suite, on va comprendre où seront les difficultés des problèmes.
Mmh. D'autant qu'on les connaît, ces chiffres, vu que c'est des entreprises cotées, on a à disposition la plupart de ces chiffres. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi, il me semble que c'est Amazon, notamment, et puis Meta pour Messenger, qui fait aussi des recours. Apple n'a pas dit son dernier mot. Hein. Apple est très critique vis-à-vis de la commission et du DMA, mais Apple est aussi touché au niveau de l'Apple Pay, qui se voit aussi ouvert, le service de paiement.
Mais c'est toujours le chiffre d'affaires des services dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'on est bien dans ce segment. Si vous regardez Amazon, il va falloir regarder très soigneusement ce qui se passe du côté de la façon dont sont présentés les résultats. Et puisque, en principe, l'une des mesures du DMA, c'est qu'on ne peut pas favoriser ses propres produits. Donc, comment va être mise en œuvre cette règle? Comment va-t-on aller regarder de plus près ce qui se passe entre la marketplace et les produits propres d'Amazon? Comment la publicité est devenue quasiment une obligation pour les acteurs du marketplace si on veut être bien classé? Tout ça relève de ce qui est très important dans les revenus d'Amazon. Et donc, on peut s'attendre de ce côté-là à des difficultés, comme on peut s'attendre à des difficultés du côté de la publicité, du côté de Google et de Meta. Enfin bon, voilà. On va avoir une mise en application plus ou moins aisée et plus ou moins compliquée. Et il faut aller regarder où se font les chiffres d'affaires et les marges.
C'est noté, c'est envoyé à la commission. On parle des changements depuis avant. On a parlé d'Apple, mais c'est vrai que il y a aussi, par exemple, le choix du navigateur par défaut, donc sur iOS, mais aussi sur Android. Ça, c'est pour Google. Pas d'obligation, par exemple, hein, de lier ses comptes Microsoft et Windows ou Google Search et YouTube. Donc, en gros, plus de contrôle sur nos données. J'ai parlé de Messenger. On peut se créer un compte Messenger sans compte Facebook. Bref, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que les big tech, bon gré mal gré, ont finalement joué le jeu et se sont bien mis en conformité?
Écoutez, j'en sais rien.
Des annonces qu'on a eues pour l'instant
Les annonces qu'on a eues pour l'instant, si vous voulez, l'une des, pour moi, des grandes fragilités du DMA, c'est la procédure qu'a retenue la Commission et qui a été votée hein, par le Parlement et par les États membres, qui consiste à prendre cette politique de conformité. C'est-à-dire de dire, vous n'avez pas le droit, bon, je prends un exemple, vous n'avez pas le droit de favoriser vos produits par rapport à d'autres quand ils apparaissent dans un certain ordre dans vos algorithmes. Comment cette règle est mise en œuvre? Chaque acteur avait, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, hein, un peu moins d'un an pour le mettre en place et choisir la façon dont c'était mis en œuvre. Et il y a eu une réunion de débat au printemps dernier. Et aujourd'hui, on va avoir, la semaine prochaine, je crois, ou la suivante, j'ai oublié, ça dépend des entreprises, des workshops où ces acteurs vont chacun présenter leur salade, leur sauce, la façon dont ils ont interprété et mis en œuvre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à voir ce qui relève de choix qui sont, entre guillemets, attendus et ou plus inattendus et dont les conséquences là aussi sont plus inattendues. Et ça, on ne le saura qu'avec le temps parce qu'il y a, comme vous le soulignez tout à l'heure, beaucoup de mesures différentes, beaucoup de règles. Il y a 21 règles qui sont de type obligation ou bien interdit. 21. Chacune d'entre elles signifie plus ou moins, selon les acteurs, une mise en œuvre pour un certain nombre de ces plateformes. Donc, il y a énormément de choses à vérifier, énormément de choses à identifier. Et je suis dans l'incapacité absolue aujourd'hui de vous dire, c'est non seulement la lettre, mais aussi l'esprit ou pas. Et je pense que il faudra absolument, dans chacun de ces cas, ça fait beaucoup de cas, je pense que la combinatoire doit nous conduire à au moins une centaine de points de contrôle, à se demander si oui ou non, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est susceptible d'avoir un effet sur ce qu'on appelle en jargon économique la contestabilité, c'est-à-dire la possibilité de faire concurrence aux acteurs en question, et si c'est susceptible ou pas d'avoir un effet sur le partage de la valeur. Et ça, un bon régulateur vous dira, ou un mauvais aussi peut-être, le diable est dans les détails. Il y a certains des acteurs qui ont rendu 100 pages pour expliquer ce qu'ils avaient fait. Si vous voulez, j'en sais rien, je ne sais pas répondre à votre question, et on va voir. Et ça va prendre du temps de faire le diagnostic, et je pense qu'il y a des choses qu'on verra pas tout de suite.
Donc en fait, à vous écouter, on a encore plus d'interrogations qu'autre chose finalement pour le moment.
Sur les modalités, oui, bien sûr. Sur les modalités, il y a beaucoup d'interrogations sur ce concrètement la façon dont elles se traduisent. Alors il se trouve que je suppose que c'était volontaire, mais Apple a divulgué un peu à l'avance un certain nombre des mesures. Et certaines étaient peut-être des leurs. En tout cas, quand on voit le temps qu'il a fallu pour les enlever, on se dit que effectivement, c'était presque de la provocation. Il y a eu plusieurs sujets sur lesquels ils ont fait. Il a suffi d'un week-end ou d'une nuit pour qu'elles changent. Ils changent d'avis parce que c'était trop visible, si vous voulez. Mais sur les autres. Je pense qu'on va voir des choses évidentes, simples. Vous avez vu comme moi dans qu'on vous demandait des autorisations, etc., etc. Bon, maintenant, comment c'est interprété par les gens? Est-ce que c'est fait de façon à nous pousser à faire un choix plutôt qu'un autre? Ça aussi, ça va être l'un des éléments de la question. Bon, tout ça va prendre du temps, oui. Tout ça va prendre du temps.
Et c'est vrai que tout le monde commence à voir apparaître des petits onglets sur les différents services des big tech avec des choix à faire. Et finalement, c'est l'illustration des conséquences directes, des impacts directs sur les consommateurs, les internautes du Digital Markets Act. Pour terminer sur Apple, parce qu'on a beaucoup parlé, mais ce cas, je trouve personnellement en tout cas très intéressant, Apple a annoncé plusieurs mesures, notamment sur l'App Store, et sur l'App Store a mis des conditions. Voilà, pour bénéficier de cette ouverture, il y a des conditions, notamment pour les développeurs. Est-ce que c'est, outre le fait que ça montre vraiment qu'Apple est encore opposé au DMA, est-ce que la commission ne va pas retoquer une partie de tout ça? C'est finalement l'enjeu principal du DMA maintenant, que la commission regarde ce qui a été fait et retoque une partie?
Écoutez, que je l'ai lu, on a l'impression que c'est fait pour, et les réactions premières, hein. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que de toute façon, tout ou partie, on va aller à la Cour de justice. Vous avez à la fois des enjeux stratégiques, on en a parlé, puis après, vous avez des enjeux de court terme. Pour toutes les entreprises, gagner un trimestre, ça a aussi de la valeur, hein. Tout ce qui permettra de délayer dans le temps un certain nombre de mesures, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit dans les entreprises en fonction des attentes de ceci ou de cela. Donc, bien sûr que la commission va retoquer, mais il vaudrait mieux, contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, qu'il n'y ait pas qu'une seule chose qu'elle retoque. Moi, j'aimerais bien qu'elle prenne le temps de voir chez tous les acteurs un certain nombre de sujets, de les voir suffisamment en profondeur pour qu'on n'attende pas trop avant d'avoir des possibilités d'impact, des possibilités de discussion, des possibilités d'évolution. Donc, il y a déjà des sujets aujourd'hui qui sont devant la Cour de justice parce que Amazon en a contesté, Zalando en a contesté. Enfin, ça, c'était pour le DSA. Mais enfin, aussi bien, ce que je vous dis, au fond, concerne bien sûr le DMA, je réponds à vos questions. Mais si vous mettiez le Digital Service Act, qui est l'autre facette du pouvoir de marché de ces grands acteurs, bah, vous auriez à peu près les mêmes réponses sur le fait que tout ne va pas se faire du premier coup, qu'il va falloir du temps, que en ayant choisi cette histoire de conformité, c'est-à-dire que c'est les acteurs qui disent comment ils sont les plus conformes à une lettre et que la commission n'a pas dit ce qu'elle appelait, elle, la conformité. Je pense que ce sera différent dans quelques années, mais que pour l'instant, c'est pas le cas. Tout ça va effectivement aller devant la Cour de justice, et dans ce cas-là, ça prendra du temps, et puis si les acteurs ne sont pas d'accord, ils iront en cassation, etc., quoi.
Ça va prendre du temps. Il va y avoir du travail au niveau de la Cour de justice.
Et c'est les sujets, je pense que les sujets sur lesquels on avancera le plus vite sont ceux qui ont soit été jugés impossibles à contourner pour telle ou telle raison au cas par cas, soit parce que ils sont pas très coûteux.
Et est-ce qu'il y a une stratégie d'une de ces grandes entreprises concernées qui vous a marqué plus que les autres? Parce que toutes, selon leur modèle économique, selon les attentes des investisseurs et du marché, n'adoptent peut-être pas la même stratégie.
Elles adoptent absolument pas la même stratégie, c'est clair. Chacune d'entre elles a adopté une stratégie. Alors, elles sont plus ou moins lisibles. On a déjà parlé de celle d'Apple, celle d'Amazon. J'ai du mal, mais on imagine que sur un certain nombre de sujets, ils se rapprocheront de celle d'Apple, mais peut-être un peu. Enfin, j'en suis pas certaine, mais de ce que j'en ai vu, Google et Meta aujourd'hui semblent plus jouer positionnement de bons élèves, mais j'attends de voir. Enfin, Microsoft a plutôt joué en amont et en avance pour essayer de capter un certain nombre de résultats avant de rentrer dans le DMA, mais va probablement être moins bon élève qu'il ne veut le donner. Je vous vois sourire. Donc...
oui, parce que c'est probable. Ils vont défendre leurs intérêts. Et il y a beaucoup de paraître.
Tous ces acteurs, enfin, c'est assez fascinant. Hein. Ils ont. Je suis désolé de revenir sur des choses pareilles. Je vous disais tout à parler de capitalisation. Mais on est entre 50 et 100 milliards de dollars de profits par an. C'est des montants. Et donc, si vous avez effectivement, si au fond le DMA atteint ses objectifs, ça veut dire quand même moins de rente monopolistique, ça veut dire moins de profits, ça veut dire une baisse des capitalisations boursières. Et ça, je pense que, aucun de ces acteurs n'en a envie.
C'est assez probable en effet quand on voit les montants. Alors c'est difficile de se le représenter encore une fois, mais c'est probable surtout Apple qui en ce moment, pour d'autres raisons, avec notamment l'intelligence, le retard sur l'intelligence artificielle a vu, et ses résultats décevants en 2023 a vu sa valorisation reculer de 7%. Il y a des enjeux quand même aussi à ce niveau-là, au niveau de la valorisation pour ces géants.
Pour tous, pas seulement pour Apple, pour absolument tous, parce que leur c'est à la fois leur profit et leur possibilité de croissance. Donc les enjeux sont tels. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pas seulement sur la part du chiffre d'affaires européen, qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout ça se passe. Si ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur, ça veut dire que ça n'atteint pas ses objectifs.
C'est bien résumé. C'est plutôt bien résumé, en effet. Pour conclure, je n'irai pas jusqu'à parler de mise en danger. Mais est-ce que ce texte européen met malgré tout sous tension le modèle économique de ces big tech?
Écoutez, ils sont aujourd'hui sous tension un peu partout dans le monde, avec des modalités différentes. Mm-hmm. Mais quand même, quand vous voyez ce qui se passe sur l'IA, vous vous dites qu'ils ont de la ressource. Donc oui, bien sûr, mais en même temps, ils font tout pour... élargir leur pouvoir de marché sur l'IA. Là, je suis un peu en collectif, hein, et profiter de tel ou tel de leurs avantages, et ils sont gros, et non seulement financiers, mais aussi techniques, que, c'est la vie des affaires, quoi.
C'est la vie des affaires. On terminera sur ces dernières paroles. Merci, Joël Toledano, pour votre venue dans Culture Numérique et pour nous avoir apporté votre expertise.
Merci à vous. C'était un plaisir.
Voilà, cet épisode touche à son terme. Merci pour vos écoutes et votre fidélité. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial et inédit. En effet, Siècle Digital participe cette année au Podcaston, un événement permettant de mettre en avant une association, une cause et d'appeler aux dons. À cette occasion, le prochain épisode sera sur l'association Systech, qui facilite l'insertion des femmes réfugiées dans la tech et le numérique. Ne le manquez surtout pas.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.